La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Marc 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde avec de sévères recommandations. » Et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait
Merci Astrid pour la lecture de ce texte-là. C'est un texte qui est souvent prêché pour exhorter les membres d'Église à faire ce que nous avons tant de mal à faire, c'est-à-dire témoigner pour notre Seigneur. Cet homme, a priori, semble être un bel exemple à suivre. Il dit, il proclame, il crie, à qui veut l'entendre ce que Jésus vient de faire pour lui? Mais sommes-nous vraiment certains qu'un autre regard sur ce texte ne dirait pas le contraire de ce que nous disons habituellement? Alors c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Avoir une autre lecture de ce récit qui nous révélera, je l'espère, bien des surprises. En tout cas, je le souhaite. Mais au préalable, nous savons que toute histoire, pour avoir un sens réel, pour être bien comprise, doit être analysée, doit être mise en perspective avec tout ce qui constitue son contexte. C'est-à-dire, on doit considérer l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'événement se produit, qui non seulement joue un rôle important, mais va influencer aussi, va influer même sur l'histoire elle-même, quelquefois. Il est important de considérer les personnages qui sont dans le texte. Alors, quelquefois, il y a des personnages actifs, il y a des personnages périphériques. On doit aussi considérer le lieu, les jours, le moment de la journée. Est-ce que ça a eu lieu le matin, le midi, le soir? Et chacun de ces instants-là porte un message. On doit aussi considérer les habitudes, les traditions, etc. Tout cela contribue à donner du relief, à faire émerger le vrai sens de l'histoire. Alors, l'histoire qui nous concerne aujourd'hui se déroule à Capernaum. Aujourd'hui, on l'appelle Képhanaüm, qui est une bourgade au nord de la Palestine, dans la province est de Galilée, à proximité de l'embouchure du Jourdain, non loin du lac de Génézareth, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Et tout l'arrière-plan que vous voyez, c'est juste ça, Capernaüm. Et l'histoire, la rencontre de Jésus avec cet homme, ben, s'est déroulée là. C'est aussi là qu'il y avait la maison de Pierre, où Jésus avait établi sa résidence et dont il avait fait son quartier général. En quelque sorte, le centre du rayonnement de son ministère en Galilée. Il formait là ses disciples, dans la maison de Pierre. Vous savez que Pierre habitait avec son frère, sa belle-mère. Il y avait pas mal de gens qui habitaient chez Pierre. Et Jésus aussi avait son petit coin chez Pierre. Mais ce n'est pas une pièce, hein, comme c'était un ensemble de maisons autour des murailles. Hein. Pardon, oui, ce n'était pas vraiment une muraille, mais c'était En fait, de l'intérieur, on pouvait voir de l'extérieur, mais c'était une agglomération de maisons. Et chacun avait sa pièce. Hein. Alors, nous apprenons d'après le verset 9 à 20, alors on va pas mal chercher dans notre Bible aujourd'hui. Cette prédication va prendre la lieu d'une étude de texte, si vous voulez bien. Alors, nous apprenons d'après les versets 9 à 20 que nous sommes dans la première année du ministère public de Jésus. Il a déjà choisi ses premiers disciples. Il a accompli un certain nombre de miracles qui faisaient que sa renommée était de plus en plus grandissante, tant et si bien que certains chefs religieux de l'époque commençaient à voir en lui un concurrent à éliminer. Cela d'autant plus que Jésus faisait ouvertement des reproches au clergé. Il leur disait un certain nombre de vérités qu'ils n'aimaient pas trop entendre. Ce qui faisait que des oppositions commençaient à émerger. Lorsqu'on lit par exemple dans Jean 5, verset 16, on apprend que les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses, il faisait des choses le jour du sabbat. Alors quelles sont ces choses? Alors regardons ensemble, si vous voulez, dans Luc 6, le verset 6 à 12. Luc 6, verset 6 à 12. Puis-je vous inviter à lire la première personne qui aura trouvé? Vous lisez à haute voix. Merci. Luc 6, versets 6 à 12.
Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi. » Et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande, s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends la main. » Il le fit et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu.
Voilà, ils étaient en colère parce que Jésus faisait ces choses le sabbat. Mais voilà-t-il pas que la veille de sa rencontre avec ce lépreux, Jésus va récidiver avec deux cas. Et il va faire ce que nous lisons au verset 21 dans notre texte concerné, c'est-à-dire, il va se rendre à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, il enseigna. Verset 23, il dit, « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écrie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent ?» Et verset 28 nous dit, « Sa renommée se répandait aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. » Premier cas, Jésus va récidiver avec un deuxième cas. Regardons verset 29. Je peux vous inviter à lire si vous voulez bien. Le verset 29, deuxième cas où Jésus va récidiver.
En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir.
Alors, si nous continuons donc la lecture des versets suivants, nous lisons la fin du sabbat. J'aimerais bien que quelqu'un nous lise le verset 32, s'il vous plaît. Merci.
Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques.
Juste 32, allez-y jusqu'à 34, veuillez m'excuser.
Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient.
Bien. Nous sommes devant une journée, le jour du sabbat de Jésus, à Capernaum. Quand vous regardez les textes là, j'ai mis en bleu uniquement les moments où il enseigne. Et tout le reste concerne des guérisons, concerne des exorcismes, et toute la journée. Et ça, c'était avant sa rencontre avec le lépreux. Alors regardez, pourquoi je vous ai mis ça, parce que vous allez comprendre. La majorité, uniquement les parties bleues, c'est l'enseignement. Ça va vous permettre de comprendre après tout le reste du texte. Merci. Ce jour-là, l'engouement des foules qui couraient après Jésus avait pris l'allure d'un emballement. Il a multiplié guérisons et exorcismes pendant des heures. Et comme les gens savaient où il logeait, ils se précipitèrent en masse et s'agglutinèrent devant la maison de Pierre. Ce qui provoqua une agitation inhabituelle. Il y avait de l'effervescence dans ce petit village que nous venons de voir. Matthieu nous dit ceci au chapitre 4, verset 24. Il dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. » Après, il explique qu'on lui emmenait des gens de partout, des lunatiques, des démoniaques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, finalement la maison de Pierre, que vous pouvez voir. Je sais qu'il y a ici des personnes qui sont allées à Capernaum. Est-ce que vous avez vu la maison de Pierre? Oui, hein, elle est encore là. Ils ont monté un hexagone dessus. Alors, vous pensez bien, chers frères et sœurs, que les chefs religieux étaient très inquiets. Et vous avez vu le centre, là où habitait Pierre, le centre, et c'est pas très grand tout ça. Alors, imaginez la foule qui s'agglutinait devant la maison de Pierre. Les religieux étaient inquiets et s'interrogeaient sur qui il était vraiment. Eux, d'habitude, qui régissent tout ce qui est d'ordre religieux, et certains aspects de la vie sociale voient se développer de façon parallèle à leurs yeux un phénomène sur lequel ils n'avaient aucun contrôle. Tout ce qu'il y avait de religieux était géré par les rabbins, par les chefs religieux, par les prêtres. Alors, ils ont commencé à épier Jésus. Ils s'interrogeaient eux-mêmes, ou alors ils interrogeaient des gens, ils envoyaient des espions, eux-mêmes viennent en catimini pour le surprendre, pour le confondre, pour lui tendre des pièges. Mais Jésus jouait toujours l'apaisement. Il voulait le dialogue avec ces hommes. Il n'avait pas une personnalité conflictuelle. Mais non seulement il jouait d'abord, bien sûr, l'apaisement, mais nous savons qu'il va interdire à plusieurs reprises aux gens qui auraient été guéris de parler. Nous l'avons lu plusieurs fois dans la Bible, au verset 25 du texte qui nous concerne. Il menaça l'esprit impur en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et l'esprit obtempéra, nous dit le texte. Alors, on est en droit de s'interroger sur cette attitude de Jésus et demander pourquoi tant de prudence. En fait, deux raisons font comprendre sa démarche. Premièrement, Jésus ne cherchait pas à provoquer ses chefs religieux. Il voulait désamorcer ses tensions naissantes. Donc, il privilégiait toujours l'apaisement tant que cela dépendait de lui. pour leur donner du temps pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ils avaient besoin du temps, ces hommes, qui s'étaient drapés dans leur croyance. Alors Jésus jouait l'apaisement pour leur permettre de comprendre. Il n'était pas dans la provocation, mais il devait néanmoins faire ce pourquoi il était venu. Il dira à ses disciples plus bas, « C'est pour ça que je suis sorti. » Alors, on peut interpréter cette réponse de deux façons. Hein. Lorsqu'il va aller prier, et puis il va dire à ses disciples, « C'est pour ça que je suis sorti. » On peut l'interpréter, « Je suis sorti maintenant pour prier. » Mais aussi, on peut l'interpréter, « C'est pour ça que je suis sorti de l'anonymat maintenant. » Il dira à ses propres parents, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Cet aspect de son ministère avait pris une telle importance qu'il sentait venir, lui Jésus sentait venir le dérapage possible. Il sentait venir le fait qu'il soit considéré comme un traumaturge en fait, un faiseur de miracles. Car il y en avait beaucoup à l'époque de Jésus, vous le savez, la Palestine en était remplie. Mais ce qui est très important que Jésus voulait faire comprendre, que ce n'était pas le principal de son ministère. Il voulait que son ministère de guérison s'inscrive parallèlement à l'intérieur du ministère d'évangélisation. Jésus ne voulait pas que ce ministère de guérison se développe un peu comme un feu follet tout seul. Et c'est pourquoi il dira à ses disciples qui le cherchaient au verset 38, lisons ensemble. Alors, on pouvait commencer à lire à partir du verset 37. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Marc 1 à partir du verset 37?
Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Il leur répondit, « Allons dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. »
Alors, cette déclaration du verset 38 devait déjà suffire pour faire comprendre de quoi il voulait que sa journée soit faite. En fait, nous sommes quel jour là, lorsque Jésus dit ça? Quand les disciples cherchent, regardez le texte, quand les disciples cherchent, on est dimanche matin. Je vous ai parlé du sabbat pour rentrer le texte qui nous concerne dans un contexte. Et c'est pour ça que nous avons vu le déroulement de la journée du samedi, le sabbat. Il a passé la plupart de son temps à guérir. Et le dimanche matin, très tôt, quand il l'eut trouvé, il lui dit « Tous te cherchent », il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Cette déclaration du verset 38, comme je disais, devait déjà suffire pour faire comprendre de ce dont il voulait que sa journée soit remplie. Il dit, afin que j'y prêche. C'est-à-dire, il voulait enseigner, il voulait expliquer les prophéties qui le concernent, il voulait annoncer le message du salut, il souhaitait aller à la rencontre des gens là où ils étaient. Il souhaitait leur parler du Père, du Messie et du royaume de Dieu qui était enfin venu s'établir sur terre. Il voulait leur parler du Messie qui est là avec eux. Il souhaitait vulgariser l'Évangile. Il souhaitait divulguer le message. Il souhaitait parcourir les environs, c'est-à-dire Bethsaïda, Génézareth, Nazareth, Tibériade, Magdala, etc., pour répandre la bonne nouvelle et proposer la nouvelle naissance. Et en rajoutant à sa déclaration un petit mot, je vais vous laisser regarder, vous allez regarder bien le verset que nous venons de lire. Reprenons votre texte, le verset 38. Et Jésus va rajouter un petit mot qui est en apparence anodin. Mais Jésus souhaite exprimer ici une certaine préoccupation intérieure une inquiétude par rapport à ce qui se passe. Il est préoccupé par l'autre aspect de la mission. Il a le désir de rétablir un certain équilibre. Alors il dira quoi? Donnez-moi juste le petit mot. Merci. Merci. Il faut comprendre, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche pareillement. Synonyme d'aussi. Afin que j'y prêche autant. Afin que j'y prêche également, de la même manière. Tout ça, c'est le synonyme de aussi. Je veux dire, c'est pour cela que je suis sortie. Alors, à partir de là, on peut déterminer le programme de la journée du dimanche de Jésus, ce jour-là. Il souhaite quitter la maison de Pierre pour aller dans les villages d'à côté. Au passage, avez-vous remarqué de quelle manière cet homme parfait commençait sa journée? Avez-vous remarqué comment il commence sa journée? Très tôt le matin? Bien sûr. Loin des acclamations des... Pardon. Loin des acclamations des hommes, car derrière l'incroyable succès de sa vie se cache la puissance de la prière. Si lui, Jésus, priait chaque jour auprès du Père, puisait chaque jour auprès du Père sa subsistance spirituelle, à plus forte raison, nous, êtres déchus que nous sommes, nous le devons davantage. À mon avis, pour comprendre la portée spirituelle de cette histoire, l'histoire de la rencontre du lépreux avec Jésus, que nous raconte Marc, il nous faudra connaître les pratiques de l'époque vis-à-vis des personnes atteintes de la lèpre. Vous voyez, on n'a toujours pas expliqué le texte, hein? On est juste dans le contexte. Pratiques de l'époque vis-à-vis donc des personnes. Nous savons que la lèpre était et est toujours une maladie infectieuse, chronique, d'origine bactérienne, qui agit sur la peau, les muqueuses respiratoires, ainsi que sur les yeux. Je n'ai pas osé emmener des images. Mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller voir. Hein. Ça fait des dégâts. Et à l'époque, et sur les yeux, et c'était une maladie très contagieuse, très invalidante et surtout inguérissable à cette époque, à tel point qu'elle était devenue le symbole pour décrire la laideur du péché. Dieu avait transmis à Moïse les lois en rapport avec cette maladie et lui avait donné tout un protocole à observer en cas de guérison et qui se déroulait sur 7 jours. Que nous trouvons dans Lévitique 13 et Lévitique 14. Cet homme se devait d'accomplir un protocole sur 7 jours. Ceux ou celles qui étaient atteints vivaient dans la misère la plus extrême et le désespoir le plus complet. Ils étaient obligés de vivre séparés des hommes entre eux. Séparés des hommes, mais ils étaient obligés de vivre entre eux, dans des lieux retirés, prévus pour cela, en marge de la société. Ils ne devaient plus avoir aucun contact avec leurs semblables, leurs familles, leurs enfants. Alors, quand il leur arrivait de s'en éloigner un petit peu de ce lieu sordide, ils ne devaient jamais rentrer dans les villes, dans les villages ou dans les bourgades, mais ils devaient rester aux abords et crier « Lépreux, lépreux !» ou agiter soit une clochette ou un crécelle pour éviter le contact avec des personnes bien portantes. Et d'ailleurs, la seule vue des personnes qui étaient atteintes inspirait l'effroi aux habitants. Et ce n'est pas tout. Pour couronner l'ensemble, ils n'avaient plus accès au temple. En fait, voilà un mort vivant. Enfin, il était vivant, mais sur le plan de la société, il était mort. Il n'avait plus d'existence sociale. Alors, vous pensez bien que cet homme qui va croiser le chemin de Jésus ce jour-là, vous comprendrez bien qu'après tout ce qu'il a entendu de lui, c'était sa seule chance d'être guéri. Son unique opportunité d'être débarrassé à tout jamais de cette horreur qui le dévorait lentement, mais de façon inexorable. Et n'écoutant que son cœur, il va se jeter à genoux et il va supplier Jésus, si tu veux bien, tu peux me rendre pur. Alors faisons un instant un gros plan, un arrêt sur image. Regardez cet homme tenant à peine sous ses genoux, malade, pleurant, suppliant. Alors on peut imaginer disant à Jésus, regarde mes mains, regarde mon visage, regarde où j'en suis avec cette maladie. On peut imaginer qu'un dialogue un peu surréaliste va s'établir entre cet homme et Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit pas si tu le veux, tu peux me guérir, mais tu peux me rendre pur. Mais oui, Jésus le voudra. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas en un lépreux. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas en un lépreux, comme l'expression de l'image du Père en cet homme-là. Alors oui, il voudra. Il va accéder à sa demande. De même encore, aujourd'hui, Jésus veut nous guérir de tous nos maux, de toutes nos maladies, des bobos de toutes sortes. Plusieurs d'entre nous ici pouvons le témoigner qu'il guérit encore, comme il a fait pour le lépreux. Alors si beaucoup fuyaient à l'approche des lépreux, certains éprouvaient néanmoins de la pitié en prenant d'infimes précautions et les nourrissaient ou leur procuraient des habits sans jamais les approcher. Ils allaient, ils déposaient l'ensemble ici, la nourriture là, et puis ils fuyaient, ils partaient, afin de ne pas croiser la route du lépreux. Le verset 41 nous dit que face à tant de souffrances, Jésus est ému de compassion. C'est-à-dire qu'il est remué au plus profond de lui-même, jusqu'aux entrailles. Alors Jésus va accéder à sa demande. Malgré sa crainte quand même de ne pas passer pour un guérisseur, hein, mais Jésus n'écoutera que son cœur. Il aurait pu le guérir sans le toucher, hein. Il avait ce pouvoir, Jésus. Ne serait-ce que le regarder simplement et dire, tu es guéri. À distance, il pouvait le faire. Mais étant donné le caractère contagieux de cette maladie, il voulait démontrer quelque chose, qu'il avait pouvoir au-dessus de cette maladie. Mais Jésus, vous savez, il ne peut s'empêcher ce contact humain. Pour lui, communiquer en même temps cette chaleur humaine qui fait tant de défauts aujourd'hui dans notre vie, dans la société moderne dans laquelle nous sommes. Alors il va aller le toucher volontairement, c'est une démarche délibérée, pour mieux lui exprimer son empathie, pour mieux lui exprimer son amour qui... Au-delà de l'acte médical proprement dit, qui est de guérir, il y a aussi cette purification de tout son être que Dieu peut, Dieu seul peut opérer. Alors Jésus va étendre la main et lui dira, je le veux, sois pur. Et la guérison fut immédiate. On a presque envie d'applaudir. Ça a eu lieu 2000 ans passés. On a envie d'applaudir notre Seigneur. Vous savez, par cette guérison purificatrice, Jésus venait de le débarrasser non seulement de ses souillures physiques, mais aussi morales. Jésus va l'automiser, oui, c'est-à-dire le rendre autonome. Il le rend à la société pour lui permettre à nouveau d'entrer en relation, d'abord avec Dieu le Père, et d'accomplir le rituel d'intégration prévu par la loi. Puis, il va le mandater dans les termes que nous lisons, verset 44. Lisons. Est-ce que quelqu'un veut bien lire verset 44? Vous voyez, Jésus donc va le mandater.
Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. »
Jésus ne peut pas être plus clair. Il lui signifie deux choses. La première, c'est une mise en garde. Garde-toi. Donnez-moi un synonyme de garde-toi. Abstiens-toi. C'est un synonyme. D'accord ? Garde-toi de faire ça. Alors, abstiens-toi de le faire. Ou alors, évite de. Celui-ci est plus usuel. Hein? Première chose, Jésus va lui dire de garde-toi. C'est-à-dire, abstiens-toi, évite de. Et deuxièmement, il lui dira exactement de quelle manière il doit rendre témoignage. Il va lui dire, va te montrer au sacrificateur et faire ce qui est prévu. Deux consignes bien claires. Le verset 45 nous dit, mais, on parlera tout à l'heure. Mais cet homme s'en est allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. Le but de Jésus après la guérison du lépreux, chers frères et sœurs, était bien le témoignage. Mais pas comme nous l'entendons. Le témoignage selon la parole contenue dans Lévitique 14. C'était ce témoignage que Jésus lui avait demandé de faire. Et ce témoignage-là devait se faire au temple pour que la guérison soit constatée par les prêtres dans un premier lieu. Deuxièmement, pour sa réintégration après 7 jours de rituel dans la communauté, Jésus voulait que son témoignage soit un témoignage qui passait par la voie normale. Et aussi afin que les prêtres constatent que Jésus n'agissait pas systématiquement contre le temple et les règles qui régissaient le temple. Mais Jésus réagissait contre les rajouts aux lois de Dieu par des rabbins à la recherche de notoriété. Vous savez, dans Marc, rappelle les propos de Jésus, il dit « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'était contre cela que Jésus s'élevait. Mais Jésus voulait que cet homme se rende au temple afin qu'on le constate qu'il fait des choses, mais qui ne sont pas contraires donc, aux règles du temple. Alors, ce qui aurait permis aux prêtres de la synagogue de desserrer un peu l'étau contre lui, Jésus. C'était une occasion parfaite pour lui de collaborer avec celui qui venait juste de lui offrir une autre vie. De son exubérance incontrôlée, Jésus va subir les conséquences de sa désobéissance. Relisons, si vous le voulez bien, le verset 45. Je vous laisse le lire. Est-ce que quelqu'un peut le lire à haute voix? Parce que nous allons un petit peu décortiquer les conséquences donc, du comportement.
Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle. Et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, où l'on venait à lui de partout.
Par plusieurs termes exprimés ici, Jésus a été pénalisé dans son projet du jour et il sera renvoyé, où nous dit le texte à la fin ? Dehors, dans le désert. Alors que son intention de départ était quoi ? Rappelez-moi l'intention de départ de Jésus. Pardon ? D'aller dans les bourgades et les villages voisins, d'accord ? Cet homme qui aurait dû être un facilitateur de mission s'en trouve être en fait un anti-programme, une barrière pour le maître. Regardons de plus près le verset. Comment commencent les conséquences ? Par quel mot ? Quel est le mot qui exprime justement les conséquences négatives ? Mais, c'est une petite conjonction de la grammaire française qui permet donc d'annoncer une idée qui est contraire, quelque chose de différent, une opposition. Il continue, le texte nous dit qu'il publie et divulgue, c'est-à-dire il fait connaître à grande échelle là où il aurait dû être, pardon, là où il lui a été recommandé de se taire, de faire silence. Le texte continue avec un autre mot. Regardez bien, il y a une sorte de locution qui se trouve là. Regardez le texte. Il y a un autre mot encore dans ce verset qui dit bien que... Pardon ? Très bien, merci. De sorte que, ça veut dire tant et si bien que, voilà, il divulgua hautement, tant et si bien. Et le reste du texte nous dit, Jésus ne pouvait plus entrer. Autre part, il était empêché de rentrer dans les villages et dans les villes. Son objectif était, allons ailleurs dans les bourgades. Jésus avait envie de rencontrer les gens là où ils étaient. Il avait envie d'aller les rencontrer dans leur maison. Le texte nous dit qu'il se tenait dehors dans les lieux déserts. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Hors des villes, hors de la société, qui se tenait là avant ? Le lépreux, merci. Le lépreux était hors des villes. C'est ce qu'on a vu, c'est la coutume, c'est les traditions, oui ou non ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Bien. Et là, le texte termine en disant que Jésus, lui, à son tour, se trouve dehors, dans les déserts en plus, alors que son intention, rappelez-vous, il est sorti tôt le matin, il est allé prier le Père, il a présenté son programme au Père, qui a été validé. Tant et si bien qu'il dira à ses disciples, sortons. Oui, cet homme a agi selon ses propres pensées, au détriment de l'œuvre de Dieu dans cette ville. Conclusion. Ce récit souligne plusieurs choses. Tout d'abord que Jésus n'a jamais plusieurs choses. Tout d'abord que Jésus n'a jamais cherché le sensationnel sur cette terre par ses actes de guérison, par ses actes d'exorcisme. Les miracles, guérison et exorcisme ne doivent pas prendre l'ascendant sur la prédication de l'Évangile. Autre chose à souligner, que Jésus recherche toujours, et encore, des collaborateurs. Il recherche encore aujourd'hui des collaborateurs. Mais qui lui sont soumis dans l'obéissance pour devenir des facilitateurs de la mission dont il nous charge. Ce texte souligne que la volonté de l'homme, aussi bonne qu'elle puisse être, ne fait pas forcément la volonté de Dieu. Cet homme avait une bonne intention. Hein? Dis donc, Jésus m'a guéri. Le type s'est mis à claironner. Résultat, Jésus ne pouvait plus agir comme il le souhaitait. C'est quand même lui le patron, oui ou non? Bien. Alors on peut prendre le pouvoir, hein, si on veut. Et puis après, Jésus va nous suivre. Mais il me semble que ce n'était pas l'ordre des choses. Ce texte souligne aussi que Jésus, qui prend la place du lépreux, c'est-à-dire en dehors des villes, dans les déserts, en le réintégrant dans la société des hommes, représente un microcosme du salut. Il prit notre place sur la croix en mourant. Il prit notre place sur la croix en mourant à notre place pour nous intégrer dans le royaume du Père. Dans le royaume du Père. Un sixième point.